don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达拉加正忙
着正忙着 Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Xavier Martinet, Clément Salazar, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean Frédérix. Dernier volet de notre série en partenariat avec le festival Futur en scène, le rendez-vous européen de l'innovation où se retrouvent les forces vives de la création et d'innovation, des conférences, des ateliers, des rencontres, une immersion dans l'univers du numérique qui s'ouvre justement aujourd'hui. Et vous pouvez retrouver bien sûr tout le programme sur le site de Futur en scène. Après avoir parlé des modèles de Technopole lundi, de la culture du do-it-yourself mardi, de l'économie des plateformes hier, aujourd'hui on va s'intéresser à l'intelligence artificielle et en particulier lié au deep learning. Est-ce que c'est une révolution pour l'intelligence artificielle? Voilà la question qu'on va se poser ce matin.
Carl, veux-tu ouvrir la porte extérieure A?
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Qu'est-ce qui ne marche pas?
Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque.
Tu trouves ça tellement chouette de jouer avec une machine?
Ce n'est pas qu'une machine. Tu vas voir. J'ai eu une cassette à la Bibli. C'est sur un mec, un certain Falcon. Ce qu'il a fait est génial. Il a conçu un super truc, un ordinateur qui apprend à ne pas refaire ses erreurs et qui améliore ses performances à chaque partie. Son système apprend à apprendre.
Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny.
Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything.
I love the way you look at the world.
What's it like to be alive in that room right now?
I wish I could put my arms around you. I wish I could touch you.
How would you touch me?
Et oui, vous aurez peut-être reconnu 2001, l'Odyssée de l'espace, évidemment, Kubrick 1968, War Games de John Badham, sorti en 1983, et puis plus récemment, Air, un film de Spike Jonze, dans lequel le héros tombe amoureux de son système d'exploitation à la douce voix féminine, celle de Scarlett Johansson. L'intelligence artificielle alimente le cinéma depuis décennies, et pourtant, elle n'est pas seulement de la fiction. Ce n'est pas encore du Mozart, mais cela constitue déjà une belle avancée pour l'intelligence artificielle. Google a dévoilé, il y a quelques jours, un morceau de musique entièrement composé par un algorithme, c'est ce que vous entendez là. Alors cette composition a été possible grâce à la technique du deep learning, l'apprentissage en profondeur mise au point il y a quelques années est devenue la méthode phare de l'intelligence artificielle. Le deep learning, une technique qui a également montré tout son potentiel en mars dernier lorsqu'AlphaGo, un programme développé par Google, a battu à plate couture l'un des champions du monde de Go, le coréen Lee Sedol. L'intelligence artificielle fait désormais partie de nos vies, depuis la reconnaissance tactile ou vocale de nos smartphones jusqu'aux voitures autonomes qui, demain, nous conduiront sur les routes du monde. Il faut dire qu'en quelques années, après une longue traversée du désert, la recherche a fait des bonds géants, notamment en matière de reconnaissance d'images et de compréhension du langage. Google, IBM, Microsoft, Amazon, Adobe, Yandex ou encore Baidu, tous investissent massivement dans le deep learning, réveillant les fantasmes d'un univers contrôlé par les intelligences artificielles malveillantes qui auraient pris le pouvoir. D'ailleurs, en décembre dernier, l'hyperactif Elon Musk, fondateur de SpaceX et de Tesla, a lancé un centre de recherche baptisé OpenAI afin de prévenir ces dérives et de mettre les découvertes technologiques à la disposition de tous. Alors quelles sont aujourd'hui les potentialités de l'intelligence artificielle et sur quels obstacles les développeurs butent-ils? En quoi le deep learning constitue-t-il une rupture dans le domaine? Et d'ailleurs, de quoi s'agit-il précisément? On retrouvera dans cette émission Fanui, le champion d'Europe de Go qui est le premier à avoir affronté AlphaGo, cette intelligence artificielle de Google. Et puis on retrouvera également Xavier Noisette qui nous emmènera sur les traces de l'intelligence artificielle au cinéma, des histoires qui souvent se terminent plutôt mal, mais pour nous accompagner aujourd'hui dans ce monde de l'intelligence artificielle, on a invité un spécialiste du genre, Jean-Gabriel Galassia, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc un spécialiste de cette intelligence artificielle, professeur à Paris-6. Vous avez une formation très diverse puisque vous êtes à la fois ingénieur, informaticien, philosophe. Vous êtes membre du comité d'éthique du CNRS et également membre de la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche dans les sciences du numérique d'Alisten. Alisten, c'est ?
Alisten, c'est l'alliance des organismes de recherche dans le domaine du numérique. Donc, il y a l'INRIA, il y a le CEA, il y a le CNRS, il y a les universités. Voilà, c'est à peu près.
Voilà, encore un acronyme qu'on découvre, Jean-Gabriel Ganassia. Alors, ce concept d'intelligence artificielle, il émerge dans les années 50, officiellement il y a exactement 60 ans, 1956. Il a été proposé par John McCarthy, disons l'un des pionniers de la discipline, avec Marvin Liminsky, qui est décédé d'ailleurs il y a peu de temps, en janvier 2016. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en quelques mots, dans quel contexte cette recherche sur l'intelligence artificielle émerge et comment est-ce qu'on la définit au départ ?
Alors, d'abord, rappelons le contexte. Les premiers ordinateurs ont été construits en 1946. Auparavant, on commençait déjà à faire du calcul avec des relais téléphoniques qui permettaient d'automatiser, de faire des énormes machines à calcul. Ça a servi pour à la fois les calculs balistiques et pour décoder les messages. Alan Turing a contribué à l'amélioration de ces machines. Au milieu de la guerre, en 1943, apparaissent deux articles qui vont non pas être de l'intelligence artificielle, mais qui vont être à l'origine de ce qu'on a appelé la cybernétique. C'est-à-dire un article sur les réseaux de neurones formels qui montrait que, avec des réseaux assez simples, constitués donc de petits automates qui étaient reliés entre eux, qui donnaient une image assez vague, mais une image du cerveau. Et donc, si on avait trois couches de neurones avec deux couches de liaison entre les neurones, qu'on appelle des synapses, par analogie aux connexions qu'il y a dans notre cerveau entre les neurones, on pouvait réaliser n'importe quelle fonction logique. Cet article a fait grand bruit parce qu'il établissait un pont entre les lois de la pensée, d'un côté, la neurobiologie et puis l'ingénierie. Et puis il y a eu un deuxième article sur ce qu'on appelle les machines téléologiques, c'est-à-dire des machines. Téléos vient du but, de la finalité, des machines qui sont capables de s'asservir à leur propre fin. Et donc, éventuellement, de modifier leur comportement en fonction de leur objectif. Tout ça a donné naissance à une discipline qui a pris son nom en 48, je crois. Le nom a été donné par Norbert Wiener, qui était d'ailleurs l'article du deuxième de ses articles, qui était à la fois philosophe et mathématicien, et qui réfléchissait à la façon dont des systèmes complexes pouvaient se réguler. L'idée, c'était d'avoir une science générale des systèmes. Ça vient de kybernétiqué, qui veut dire gouvernail, des lois du gouvernement. Et d'ailleurs, l'objectif était à la fois de comprendre ce qui se produisait dans le cerveau, mais de comprendre aussi ce qui se produisait dans la société, avec des petites actions qui permettaient de changer le cours des choses. Cette discipline, donc, a motivé beaucoup de gens. Et quelques années plus tard, en 1956, deux jeunes gens, donc vous avez rappelé les noms, Marvin Minsky et John McCarthy, qui avaient 28 ans à l'époque, ont eu l'idée de créer une nouvelle discipline qui étudierait l'intelligence avec les moyens de l'artificiel, c'est-à-dire qui décomposerait l'intelligence en fonctions cognitives élémentaires, par exemple la mémoire, le raisonnement, la démonstration de théorèmes, et puis qui essayerait de simuler chacune de ces composantes de l'intelligence avec des machines. Et
Parlez de simulation, ça veut dire que d'une certaine manière au départ, ce qu'on cherche à faire, c'est de reproduire à l'identique les performances humaines. Peut-être qu'aujourd'hui, l'approche est un petit peu différente parce qu'on ne cherche pas forcément à reproduire à l'identique, mais d'avoir peut-être des résultats équivalents.
C'était un peu l'idée au départ quand même. C'était de reproduire chaque fonction cognitive avec des résultats équivalents. Et ça permettait d'une part de mieux comprendre ce qu'était l'intelligence dans toutes ses composantes, et puis d'autre part, de rendre des services dans différents domaines. Et puis en 60 ans, il faut quand même dire que c'est une discipline qui a transformé le monde. Ce que on ne sait pas assez, c'est que le web est donc la conjonction d'une part des télécommunications, des réseaux, Internet. Internet, ça naît dans les années 60, mais surtout à partir de la fin des années 80, de l'hypertexte. Et l'hypertexte, c'est un modèle de mémoire qui est conçu en 1965 par un philosophe, Ted Nelson, et qui utilise des techniques d'intelligence artificielle.
Alors, depuis le début de cette histoire-là, la discipline a connu des hauts, des bas, des moments d'euphorie, des moments de grande déception. Les années 80 ont été assez difficiles, il y a eu des problèmes de crédit, on avait des doctorants qui finalement se détournaient un petit peu de la discipline, et puis arrivent les années 2000, où là on va vivre une véritable renouveau avec de nouvelles méthodes d'apprentissage, et c'est ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond ou en profondeur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Et en quoi est-ce que le deep learning constitue une rupture dans la manière d'appréhender cette intelligence artificielle?
Si je puis me permettre, je voudrais revenir quand même un tout petit peu sur l'histoire. Dans les années 50, on essaye de fabriquer des machines avec une intelligence artificielle qu'on pourrait qualifier d'une certaine façon de générale, même si le terme peut prêter à confusion. L'idée, c'est qu'il y avait des mécanismes généraux de l'intelligence qu'on essayait de simuler sur une machine. Ça a conduit à la fois quelques succès, en particulier au système qui s'appelait le Logic Theories, qui démontre automatiquement des théorèmes de logique, qui a repris les théorèmes du petit Principia Mathematica de Whitehead and Russell, et qui les démontrait presque tous. Et puis ensuite, ça a conduit à un certain nombre d'échecs. Et donc, il y a une période noire de l'intelligence artificielle à la fin des années 60. Et puis ensuite, à la fin des années 70, il y a une renaissance de l'intelligence artificielle avec l'idée qu'il faut beaucoup de connaissances, de compétences, de savoir pour arriver à raisonner. Donc, on va s'intéresser à la fois à ce qu'on appelle la représentation des connaissances en simulant ce qui se produit dans une mémoire avec des liens avec la psychologie cognitive, mais aussi de façon pragmatique au savoir des hommes de métier. C'est ce qu'on a appelé à l'époque les systèmes experts. Et il y a une renaissance de l'intelligence artificielle au début des années 80 avec un enthousiasme extrêmement fort pour les systèmes experts. Et puis ensuite, bon, bien sûr, l'enthousiasme est allé trop loin, on attendait trop. Et en particulier, beaucoup de gens se disaient, il faudrait des systèmes experts parce qu'on voudrait des experts. Mais il n'y avait pas de savoir d'experts. Et ça a conduit les scientifiques à s'intéresser à l'apprentissage, c'est-à-dire à la construction automatique de cette expertise avec des machines. Cet apprentissage, donc, a commencé à s'améliorer dans les années 80. Et bon, ensuite, il y a eu des phases de plus ou moins grand enthousiasme. Puis il y a une renaissance en 1990.
D'accord. Alors, donc, c'est par la voie de l'apprentissage, finalement, que l'intelligence artificielle a pu retrouver une nouvelle dynamique, d'une certaine
tout
manière.
Tout à fait. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce que c'est que le deep learning? Pourquoi on appelle ça deep learning? Alors, pour ça, il faut remonter au tout début. J'ai parlé des réseaux de neurones formels en 1943. Il dit que n'importe quelle fonction logique pouvait être décrite sur un réseau de neurones formels avec deux couches de synapses et trois couches de neurones. Bien sûr, il faut établir les poids de ces connexions synaptiques. Faire à la main, c'est assez difficile. Et donc, très tôt, on s'est dit, mais il faudrait les apprendre automatiquement, c'est-à-dire donner des exemples et faire en sorte que le système les établisse de façon systématique tout seul. On a essayé, on a eu énormément de difficultés. L'un des premiers à travailler sur le sujet, c'est Marvin Minsky, justement. Il a fait sa thèse en 1950, entre 50 et 55, sur ce sujet-là. Mais bien sûr, il se heurtait à pas mal de difficultés. En 1958, quelqu'un, Rosenblatt, invente une machine qui est capable d'apprendre automatiquement ses poids synaptiques. Ça s'appelle le perceptron. Et bien sûr, il a une seule couche. Ça marche bien, mais ce que montre Minsky une dizaine d'années plus tard, c'est que ça marche que dans des cas extrêmement limités. C'est-à-dire que ça n'apprend que des fonctions très simples. Et donc, la question se pose, comment faire pour apprendre avec des perceptions à plusieurs couches? Il faut attendre les années 80, 1984, 82-84, pour avoir, avec les réseaux à rétropropagation de gradient, des machines qui apprennent avec des multicouches. À ce moment-là, les gens se demandent, mais comment ça se fait qu'elles apprennent? Et des mathématiciens, entre autres Vatnik, vont développer des théories générales de l'apprentissage machine. Ça conduit à de nouveaux algorithmes d'apprentissage, entre autres les supports de vector machine, les machines à noyaux, qui vont se développer dans les années 90 et qui vont avoir pas mal de succès. Et puis ensuite, en 2010 à peu près, les gens qui avaient développé les réseaux de neurones formels les réutilisent, mais non pas avec trois couches, mais avec beaucoup de couches. Ouais. Et avec certains opérateurs qui sont câblés sur certaines couches et d'autres qui apprennent. Et là, on obtient des résultats qui sont nettement meilleurs que ceux qu'on obtenait avec les réseaux de neurones formels. Et surtout, on est capable d'apprendre sur une quantité impressionnante de données. Par exemple, pour la reconnaissance faciale, Facebook apprend avec 4,4 millions d'images et Google avec 200 millions d'images et avec énormément de connexions. Et ça donne des résultats impressionnants. Voilà pourquoi il y a un enthousiasme extraordinaire pour ces machines.
Alors là, vous venez de glisser aussi une information qui révèle aussi d'une certaine manière une rupture, parce que Il y a le versant calculatoire, de la théorie, etc. Et puis, il y a aussi les acteurs de cette intelligence artificielle. Et de ce point de vue-là, dans les années 2000, là aussi, on vit une rupture parce que les acteurs privés vont se mettre à rentrer, à investir dans cette discipline, et notamment les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. On a des résultats notables qui seront obtenus par les différents laboratoires qui sont mis en place. Mais ce qui est très intéressant avec ces nouveaux acteurs, c'est que ces grandes entreprises, elles vont mettre à disposition du public une partie, en tout cas, des outils et des recettes de l'intelligence artificielle qu'ils développent. On a par exemple en décembre dernier regardé Facebook et même Google qui ont mis à disposition certaines de leurs technologies et, et des codes qu'ils utilisent. Comment comprendre ce choix stratégique? Finalement, quel intérêt pour ces entreprises de mettre comme ça, à plat, sur la table, les résultats de leurs recherches et même, j'allais dire, le derrière, c'est-à-dire les codes, etc. D'ouvrir cette connaissance.
Alors, la raison, elle est assez simple. C'est parce que la ressource rare, celle qui est la plus précieuse aujourd'hui, ce sont les données. Ce qu'on appelle les masses de données, ou en anglais, le big data. Et bien sûr, ces grands acteurs de l'Internet, eux, les possèdent. On imagine Google, chaque fois que nous tapons une requête sur notre moteur de recherche, si c'est Google, bien sûr, à ce moment-là, ils sont capables de savoir ce que nous cherchons. Ça, c'est considérable. De même, Facebook dispose de toutes les données de réseaux sociaux. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est les exploiter. Donc, ils vont développer des algorithmes. Bien sûr, ce sont des algorithmes souvent en open source, ce qui fait qu'ils peuvent bénéficier éventuellement d'autres algorithmes qui sont détectés. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à les mettre en accès libre.
Et ils peuvent bénéficier aussi de l'amélioration d'utilisateurs.
Voilà, ils peuvent bénéficier de l'amélioration des utilisateurs. Mais surtout, ils conservent les données. Ils n'ont pas mis les données en accès ouvert. Et qui plus est, si des utilisateurs... utilisent ces algorithmes pour leurs propres données. À ce moment-là, il y a des chances, s'ils les utilisent sur les machines de ces grands acteurs, que ces grands acteurs puissent récupérer ces données. Et donc, c'est tout bénéfice, d'une certaine façon, pour eux, parce qu'il faut bien qu'on rende conscience, hein, je crois que c'est central, c'est qu'aujourd'hui, la ressource rare, c'est celle dont disposent ces acteurs, et ça met même nos États, nos industries en défaut, puisqu'elles ne disposent plus de toutes ces données.
Mais Jean-Gabriel Ganassia, d'une certaine manière, on se réjouit que des acteurs privés investissent comme ça dans la recherche. En même temps, on peut aussi s'en inquiéter peut-être et se dire que c'est peut-être pas forcément une très bonne nouvelle pour la recherche. Dans ces laboratoires privés donc, c'est difficile de laisser libre cours à la recherche fondamentale. Il faut rapidement imaginer des applications pour en tirer un bénéfice économique. On sait bien sûr combien l'histoire des sciences est truffée en réalité d'exemples de découvertes qui ont été faites alors qu'on ne les visait pas forcément. Est-ce que cette recherche finalement par des acteurs privés ne pourrait pas ralentir les progrès de la discipline, paradoxalement?
Je ne suis pas certain que ça ralentisse les progrès de la discipline. Je crois que la question que ça pose est un tout petit peu autre. C'est que la recherche publique a de plus en plus de mal à s'imposer, puisqu'on va avoir des équipes qui ne pourront pas, pour des raisons de taille, de moyens, de financement, arriver au même niveau. Et puis d'autre part, ça pose des problèmes au plan national. C'est qu'on a du mal, ou au plan européen, parce qu'on a du mal à avoir des stratégies de recherche qui soit bien définie, puisque sur chaque sujet, si ces sujets sont pris en compte par ces grands acteurs, ils vont avoir des résultats, parce qu'ils vont mettre énormément d'équipes dessus, ils vont avoir des résultats qui seront très 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 imposants.
Dites-moi, Jean-Gabriel Ganassia, il y a un laboratoire de Facebook sur l'intelligence artificielle qui est dirigé par un Français, Yann Lequin. Aujourd'hui, c'est un homme mondialement reconnu dans cette discipline. Il vient d'ailleurs de donner sa leçon inaugurale au Collège de France au début de l'année. Comment expliquer que la France se retrouve enfin, j'allais dire, à la pointe d'un domaine qui jusque-là était quand même dominé par les Britanniques et les Américains?
Alors... D'abord, la France n'a pas toujours été dominée. Par exemple, rappelez-vous que le langage Prolog, qui permet de programmer une machine avec de la logique, a été inventé en France, à Lumini, à Marseille. Et que c'est ce langage qui a été utilisé par les Japonais comme langage de programmation des ordinateurs de cinquième génération. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que aujourd'hui il y a autant de Français, et il y en a pas mal effectivement dans ce domaine. Et je crois que ça tient à l'excellence de l'école mathématique en France, hein, qui fait que on avait beaucoup de gens qui avaient des aptitudes pour travailler dans ces domaines un peu formels, hein, qui sont à la frontière des mathématiques et de l'informatique.
Sur les mathématiques, soit, sur l'informatique, on n'a pas toujours été en pointe.
On n'a pas toujours été en pointe, mais non, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites en informatique, hein, en particulier. Hein,
vous avez oui, je vous l'accorde. Sur la démonstration automatique du théorème. Très bien, mais je vais prendre un exemple que je connais bien, le mien. Vous êtes à Paris 6, j'ai été également à Paris 6. Je me souviens qu'à Paris 6, dans les cours, on étudiait le langage Pascal, qui est un langage qui a été développé en 1977. Et je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années. Donc c'est vrai que le langage Pascal, il était un tout petit peu dépassé déjà. Je suis pas sûr qu'aux États-Unis on continuait à utiliser des langages qui avaient 25 ans d'existence.
Si, parce que les langages comme le C qui sont utilisés, mais bon, ce sont des détails techniques.
Hein. Le deep learning, une révolution pour l'intelligence artificielle, c'est la question qu'on se pose ce matin avec Jean-Gabriel Ganassia.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Alors vous vous souvenez, il y avait eu bien sûr Deep Blue, l'ordinateur qui en 1997 battait le champion du monde d'échecs de l'époque, Garry Kasparov. Presque 20 ans plus tard, c'est dans un autre jeu que la machine s'est illustrée, l'AlphaGo, un programme informatique capable de jouer au jeu de Go. Il a été développé par l'entreprise Google DeepMind. On se souvient qu'en octobre dernier, eh bien un premier professionnel avait été battu justement par cette programme, cet ordinateur, et puis en mars dernier surtout, et là les médias avaient relayé beaucoup cette information, il avait confirmé, il avait battu celui dont on disait qu'il était le meilleur joueur du monde à l'époque, Lee Sedol.
Je pense qu'aujourd'hui c'est ma défaite, mais ce n'est pas la défaite de l'humanité.
Il n'y a pas eu un seul moment où j'ai dominé la partie. Hier j'ai vu des problèmes à certains moments, mais aujourd'hui c'est une victoire complète pour AlphaGo, qui a fait un jeu parfait.
Une victoire complète pour AlphaGo. On va retrouver justement Fan Hui, qui était champion d'Europe de Go lorsqu'il a perdu justement contre l'AlphaGo. C'était à l'automne dernier. Bonjour Fan Hui.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Pardon. Alors quelques éléments sur votre parcours. Vous êtes né vous en Chine. Vous avez découvert le jeu de Go à 6 ans et vous êtes devenu professionnel une dizaine d'années plus tard. Vous êtes ensuite installé en France, dont vous avez désormais la nationalité depuis un peu plus de 10 ans. Vous êtes celui donc qui a perdu à l'automne dernier contre AlphaGo. Depuis, vous avez intégré l'équipe de DeepMind qui développe cet AlphaGo. Vous avez d'ailleurs participé à l'arbitrage de cette rencontre entre la machine et Lee Sedol à Séoul en mars dernier. La défaite de Lee Sedol, elle a été reprise dans tous les médias du monde, mais pour vous, c'était pas une énorme surprise, c'est un résultat auquel vous vous attendiez d'une certaine manière, Fan Hui.
En fait, oui, on a dit tout que AlphaGo il va peut-être gagner contre Lee Sedol, mais vous savez que tant que le match n'est pas joué, on ne pourra pas savoir. Donc, on peut dire dès le premier parti que AlphaGo a gagné, ça a choqué le monde entier, on peut dire.
Qu'est-ce que vous aviez ressenti, vous, lorsque vous aviez perdu contre AlphaGo?
Oui, mais quand je joue contre AlphaGo, en début, quand il m'a proposé le match contre AlphaGo, j'ai pas dû imaginer du tout que je vais perdre contre le machine, entre guillemets. Parce que depuis AlphaGo, avant AlphaGo, on peut dire, le meilleur niveau de programme dans le monde, c'est environ des forts joueurs amateurs. Ils ont encore on peut dire, c'est encore loin d'être niveau de professionnel. Mais dès que j'ai joué contre AlphaGo, j'étais très très surpris. Ils jouent comme des vrais humains, en fait. Et ils jouent vraiment très très bien.
Il joue comme un humain, vous dites, et en même temps, il est capable aussi de sortir des coups totalement inattendus qu'on n'attendrait pas précisément d'un joueur, j'allais dire, humain. Vous racontez par exemple qu'il y a un joueur chinois, je crois, qui a littéralement pleuré lors d'une rencontre justement contre l'AlphaGo lors d'un coup totalement inattendu, le coup 37 pour les connaisseurs. Racontez-nous ça.
Vous connaissez le numéro 1.
Absolument.
Exact. En fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est que pendant le changement d'AlphaGo, bah, des fois, il joue au début comme de l'humain, il réfléchit de façon comme de l'humain, mais petit à petit, il change, il transforme, il joue des choses qu'on, les humains qu'on n'a jamais joué. Et c'est pas parce que c'est un coup vraiment extrêmement bizarre, c'est juste qu'un coup qu'on n'a jamais pensé, qu'on n'a jamais joué, et dès qu'on l'a vu, on la comprend, et que c'est quelque chose de très très bien, et très joli.
Il est très joli, il y a aussi de l'esthétique là-dedans. Est-ce qu'il a un style particulier? Est-ce qu'il joue de façon agressive, de façon défensive, je sais pas, est-ce qu'il a un style?
En fait, c'est difficile de dire, hein, il a vraiment eu un style ou pas, parce que peut-être le meilleur style, c'est qu'il n'y a pas de style. Parce que chaque style, il y a son faille, en fait. Mais si on a vraiment envie de dire quelque chose à propos d'AlphaGo, quel est son style? Je veux plutôt dire le mot global. Il est extrêmement fort, le niveau global. C'est parce ça qui est incroyable.
Parce qu'il y a des joueurs qui disent qu'il est plutôt... Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en termes de jeu de Go, parce qu'honnêtement, je ne sais pas jouer au jeu de Go. Je connais à peu près le principe, mais je ne sais pas jouer. Mais certains disent qu'il est plutôt conservateur, plus conservateur qu'agressif.
Pas vraiment. Tant qu'il a besoin, il peut être agressif aussi. Quand il est en train de perdre la partie, il pourrait être très agressif pour essayer de rattraper le jeu. Mais ce que je veux dire, c'est depuis longtemps, avant la rencontre avec moi contre Lisedol, on pense que les machines, ils sont très très forts pour le calcul local. Parce qu'ils ont une capacité de calcul très puissante. Donc, on pense qu'ils doivent être très forts pour le compas, pour le local, etc. Mais ce qui est étrange avec AlphaGo, c'est qu'il est très fort pour la gestion de global. C'est ça qu'on n'a jamais pensé, en fait.
C'est une intelligence globale. Fanui, encore une question, et puis ensuite je passerai la parole à Jean-Gabriel Ganassia, qui voudra peut-être en profiter pour interroger un homme qui s'est fait battre par la machine. On sait évidemment que la psychologie est très importante dans une rencontre de Go, mais d'ailleurs comme dans tous les jeux de stratégie ou dans le sport. Dans ce cas, évidemment, les choses sont particulières, puisque vous avez en face de vous un adversaire qui n'est pas visualisable, qui n'est pas personnifié. On peut donc pas lire peut-être ses émotions sur son visage, dans ses gestes. En quoi est-ce que ça modifie votre rapport au jeu, votre rapport à vous-même dans la partie?
Ça change énormément. Parce que vous savez que le jeu de Go, il y a tellement de combinaisons possibles. Donc, les humains, on ne pourra pas tout comprendre et tout lire. Donc, en gros, qu'on a joué, c'est avec notre expérience. Et en même temps, on joue avec des confiances. Vous savez que entre les deux personnes, on se regarde, même on discute pas. Dès que je te vois, ce que tu réagis, je sentais que tu es plutôt confiant ou pas très confiant. Donc, ça change aussi dans mon jeu. Ça se joue aussi dans le professionnel. Mais le problème, c'est quand on joue contre AlphaGo, dès qu'on a envie de chercher ce côté pour essayer de comprendre, il est confiant ou pas, mais il n'y a aucun retour, ou le retour, c'est tellement puissant. Et que petit à petit, on a perdu ce côté de confiance. On commence à avoir de toutes sur soi-même, et ce genre de toutes, ça se développe petit à petit jusqu'à un moment qui va exploser. Et c'est extrêmement dur de jouer contre AlphaGo, extrêmement dur.
Est-ce que ça vous a fait progresser?
Ah, c'est ça le bon. Enfin, c'est une très bonne question. Je pense que oui. En fait, aujourd'hui, dans notre monde de jeu qu'on a joué, surtout le haut niveau, une fois on a atteint certains niveaux, on est obligé de réfléchir plus en plus à propos de l'adversaire. Comment je joue contre lui? Quel est son style? Comment il cherche? Etc. Mais le problème, c'est que dès qu'on commence à entendre ces domaines, on va aller plus en plus loin. Et petit à petit, on a commencé à oublier ce que nous-mêmes, on cherche dans le jeu. Mais avec AlphaGo, ce qui est génial, c'est que devant lui, tu ne pourras pas réfléchir à propos de lui. Et tu as obligé de retourner réfléchir à propos de soi-même. Alors là, ça fait un énorme changement pour moi et ça m'a changé le jeu, en fait.
Ah, Jean-Gabriel Ganassia, c'est intéressant. Ça, l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, fait aussi progresser l'homme. On l'entend là.
Oui, c'est exactement d'ailleurs la question que j'aurais aimé poser. Vous y avez très bien répondu. Et je crois que ça va plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté dans le terme intelligence artificielle. J'ai dit, c'est une discipline scientifique. Beaucoup pensent que c'est une entité qui sera à l'extérieur de nous et qui va nous dépasser. Et je crois que ce qui est important avec l'intelligence artificielle, c'est justement cette collaboration, cette coopération entre l'homme et la machine qui fait que, dans certains cas de figure, elle fait mieux que l'homme pour certaines choses, mais elle va permettre d'aller plus loin, elle va permettre à l'homme de connaître mieux le monde qui l'entoure. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, c'est un défi tout à fait étonnant que celui de l'homme avec la machine, pas l'homme contre la machine.
Alors, l'homme progresse, mais la machine progresse aussi, Fanui. Et ça sera ma dernière question. On se dit, les experts disent que le jeu de Go, c'est clairement le jeu de stratégie le plus complexe, probablement à cause du nombre de combinaisons possibles. Et on disait que ça représentait un véritable plafond qui finalement a été crevé. Est-ce que ça veut dire que l'homme est définitivement dépassé par la machine dans les jeux de stratégie?
Comment dire? Aujourd'hui, le jeu de Go, c'est pas fini. Parce que le jeu de Go, il y a tellement de combinaisons possibles. Même AlphaGo, il est très puissant, il gagne contre un des meilleurs joueurs du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'AlphaGo, il a trouvé la meilleure combinaison de jeu. C'est encore très, très, très loin de ça. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure à Gabriel qui a dit, mais je pense qu'AlphaGo, aujourd'hui, c'est un très bon outil ou c'est un très bon ami pour le joueur de Go, pour le Go professionnel et tout ça, pour mieux comprendre le jeu, pour chercher plus de choses, pour avoir l'esprit plus ouvert. Je ne veux pas le considérer comme un adversaire. Parce qu'aujourd'hui, imaginons, il n'y a aucun coureur, il va dire son adversaire, c'est avec quelle voiture. c'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans la même puissance. Mais par contre, avec AlphaGo, on pourra apprendre des choses qu'on n'a jamais imaginées ou jamais pensées. Mmh. C'est ça qui est génial pour tout le monde, je pense.
Merci beaucoup, Fanui. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec nous. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant dans tout ça. Un grand merci. Bonne continuation. Continuez à progresser, s'il vous plaît. Ce serait tellement bon de vous voir finalement renverser la tendance et battre l'AlphaGo. Je vous le souhaite. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci
infiniment. On va poursuivre avec vous, Jean-Gabriel Ganassia. Il y a quelques mois, près de plusieurs scientifiques, de nombreux scientifiques, je crois 700 scientifiques et chefs d'entreprise se sont réunis pour signer une lettre ouverte dans laquelle ils exprimaient leurs inquiétudes vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Parmi eux, on avait l'astrophysicien Stephen Hawking et encore Elon Musk, dont je parlais tout à l'heure, le fondateur de SpaceX, de Tesla Motor, de PayPal, etc. Écoutez ce que disait Elon Musk.
Je pense que nous devrions être prudents avec l'intelligence artificielle. Si je devais deviner quelle est la plus grande menace à notre existence, je répondrais probablement cela. Nous devons être extrêmement prudents avec l'intelligence artificielle. Je pense de plus en plus qu'il y a des oublis dans les législations nationales qui devraient s'assurer que nous ne sommes pas en train de faire quelque chose de dangereux. Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons un démon. Vous savez, comme dans toutes ces histoires d'un homme avec un pentagramme et de l'eau bénite qui est sûr de contrôler le démon. Mais ça ne marche jamais.
L'intelligence artificielle, un démon, Jean-Gabriel Ganassia. Que vous inspire cette mise en garde ?
D'abord que c'est une vieille histoire, une vieille crainte hein, dans l'Antiquité, hein, et puis plus proche de nous. Hein, même au Moyen-Âge, hein, il y avait cette idée qu'il y avait des automates hein, qui allaient éventuellement être maléfiques. Hein, il y a un roman, Artus de Bretagne, qui raconte hein, l'histoire comme ça de plusieurs automates. Il y a les automates noirs et puis il y a les automates blancs. Hein, les automates noirs hein, qui sont réalisés par des nigromanciens, des gens qui connaissent la magie noirs hein, vont être maléfiques. Et ce qui est maléfique, en réalité, dans ces automates, c'est la confusion qu'il peut y avoir entre la machine et l'homme. Et je crois que aujourd'hui, nous avons exactement la même question. C'est-à-dire que nous avons des machines qui sont extrêmement puissantes, qui peuvent nous aider. Hein, c'est le côté positif, hein, le côté blanc, hein, la science de l'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, hein, y a cette idée que la machine, tout d'un coup, va se substituer à l'homme et prendre le dessus. Alors, bien sûr, il faut regarder ce qui est légitime, ce qui n'est pas légitime dans ces craintes. Alors, il y a des choses qui sont légitimes parce que ces machines prennent une part de plus en plus grande dans la société et il se peut qu'à certains moments, elles nous piègent. Hein, elles vont, parce qu'elles font de l'apprentissage, acquérir une certaine forme d'autonomie, entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'une autonomie au sens moral, il s'agit d'une autonomie au sens technologique.
Et alors justement, vous l'avez dit, pardon de vous couper, autonomie, il y a quelques jours, c'était la semaine dernière. Deux chercheurs, Laurent Orso, qui travaille à DeepMind, justement, l'entreprise de Google, spécialisée dans l'intelligence artificielle, et Stuart Armstrong, du Future of Humanity Institute de l'Université d'Oxford. Ils ont publié un article dont l'objectif est d'établir un cadre, je les cite, afin de s'assurer qu'un agent imprenant, c'est-à-dire une intelligence artificielle, n'apprenne pas à empêcher son interruption. Donc l'article explique, il peut être nécessaire pour un opérateur humain d'appuyer sur le gros bouton rouge pour empêcher l'agent de poursuivre une séquence d'actions dangereuses pour lui ou son environnement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui concrètement des systèmes suffisamment avancés pour empêcher qu'un acteur humain suspende l'action d'un système informatique et finalement, que vous inspire le seul fait de se poser la question ?
Alors, l'article, justement, essayait de réaliser par apprentissage, en mimant ce que fait l'opérateur humain, un système qui serait capable de s'arrêter lui-même. Alors, bon, cet article, qui repose quand même sur des théories mathématiques assez élaborées, pose des questions techniques, hein, parce que il veut faire de l'apprentissage automatique à partir de cet arrêt systématique. Donc, il dit que c'est possible, mais il ne parle pas de la vitesse de convergence, c'est-à-dire que il se peut qu'il y ait un nombre d'essais et d'erreurs vraiment très considérable avant que la machine effectivement apprenne à s'arrêter. Puis, ça pose des problèmes théoriques de fond, parce que Turing, justement, avec la machine de Turing, nous dit que le problème de l'arrêt, c'est un problème qui est indécidable. Hein. Donc, de ce point de vue-là, ça pose un certain nombre de questions. Néanmoins, Je crois que le problème est vraiment intéressant. C'est que nous allons avoir affaire avec des machines qui sont capables d'apprendre d'elles-mêmes, des machines qui seront de plus en plus déconcertantes, qui ne feront pas exactement ce qu'on avait imaginé, puisqu'elles se reprogramment toutes seules à partir de leur propre expérience. Mmh. Et donc,
tiens, petit exemple, petite parenthèse, je crois qu'il y avait une machine qui avait été imaginé pour jouer au fameux jeu Tetris. Et on l'avait programmé pour qu'elle ne perde pas. Et elle avait trouvé quelque chose de totalement inattendu, c'est qu'elle avait mis le jeu en pause. Voilà, un exemple. Voilà, je vous laisse poursuivre.
Et alors, donc, bien sûr, ce qu'il faudrait, ce sont des logiciels qui sont capables de regarder la machine jouer, ou la machine se comporter, et à certains moments, de refuser un certain nombre d'actions. Alors, nous travaillons sur ce sujet, hein, j'ai avec un certain nombre de gens, hein, on a un projet ANR qui s'appelle Ethica, éthique des agents autonomes, et qui essaye d'intégrer à l'intérieur du comportement de la machine un certain nombre d'éléments qui répondent à des valeurs éthiques, à des questions de morale, des règles.
Alors justement, l'éthique, la morale, Jean-Gabriel Ganassia, Google a annoncé récemment la création d'un comité d'éthique pour réfléchir à toutes ces questions. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose? Et quoi? Est-ce que c'est simplement une opération de communication?
Alors, première chose, ça veut dire que effectivement, il faut prendre en considération, je crois, des éléments qui ne sont pas simplement liés à l'efficacité, à l'efficience, mais à d'autres valeurs. Donc ça, c'est central. Mais deuxième chose, on peut s'inquiéter, enfin plus exactement, c'est amusé que Google elle-même nous prémunisse contre ces questions-là, parce que c'est un peu le pompier pyromane, parce que ceux qui sont responsables quand même d'une grande partie des dangers actuels, ce sont des grandes sociétés comme Google, et donc ils sont peut-être pas les mieux placés pour cela.
Ray Kurzweil, ingénieur, chercheur, prospectiviste américain, professeur au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et depuis 2012, directeur de l'ingénierie chez Google. Il travaille sur des programmes sur l'apprentissage automatisé et le traitement du langage. Il a régulièrement souligné le danger des technologies, notamment des nanotechnologies, même si pour lui, les nanorobots seront bientôt utilisés pour maintenir le corps humain en bonne santé et prolonger la durée de vie. Mais de toute façon, pour lui, ces progrès ne peuvent pas être arrêtés. Et puis, y faire obstacle ou les retarder ne ferait que augmenter le danger. C'est en tout cas ce qu'il considère. Kurzweil est vu comme le pape du transhumanisme. D'ailleurs, Bill Gates dit de lui qu'il est le meilleur en ce qui concerne la prédiction de ce que sera l'intelligence artificielle dans le futur. Dans son best-seller de 2005, The Singularity is Near, il évoquait la question de l'intelligence artificielle et du futur de l'humanité. Et ce scénario, qui est dit de la singularité dans lequel la machine dépasserait l'homme, pour Ray Kurzweil, l'intelligence artificielle pourrait dépasser l'intelligence humaine d'ici une trentaine d'années. Regardez ce qu'il dit.
Ma prédiction pour 2029, c'est que les ordinateurs auront vraiment l'air humain. On pourra les rencontrer dans la réalité virtuelle. Ils auront l'apparence humaine. Ils nous ressembleront. Ils agiront comme des humains. On en tombera amoureux. On aura la même sorte de relation émotionnelle qu'on peut avoir avec les humains. Ils seront convaincants et on croira qu'ils ont une conscience. Ce n'est pas prouvé scientifiquement parce que ce n'est pas un enjeu scientifique. Ils se fâcheront contre nous si on ne les croit pas, et ils seront très intelligents, donc on n'aura pas tellement envie de les contrarier. Si mes calculs sont bons, d'ici 2045, notre intelligence sera décuplée 1000 milliards de fois en fusionnant avec l'intelligence artificielle qu'on est en train de créer. C'est un changement tellement profond dans l'histoire de l'humanité que nous empruntons cette métaphore à la physique pour l'appeler singularité.
Jean-Gabriel Ganassia, 2029, les ordinateurs seront aussi intelligents que nous, et puis 10 ans, 20 ans plus tard, ils nous dépasseront.
Alors, sur quoi reposent ces assertions? Sur pas grand-chose. Elles reposent sur une loi qu'on appelle la loi de Moore, selon laquelle la puissance de calcul des ordinateurs double, alors, selon les versions, tous les 18 mois ou tous les 2 ans. Cette loi s'observe depuis 1959. Est-ce qu'elle va s'observer tout le temps? C'est une question ouverte. On pense que les technologies actuelles, qui sont celles du silicium, ne permettront pas la poursuite de cette loi. Il se peut qu'il y ait d'autres technologies, comme le calcul quantique, hein, comme d'autres matériaux qui interviendront et qui feront que on prendra le relais cette loi. Mais on n'en est pas du tout certain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on constate un petit ralentissement de cette loi de Moore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que L'intelligence, ça n'est pas seulement la rapidité de calcul. Il y a bien d'autres éléments qui interviennent, qui font qu'on maîtrise assez mal toutes les composantes de l'intelligence. On a fait énormément de progrès, on connaît plein de choses, on simule énormément de choses, hein, mais on les simule d'une façon différente de ce que font les humains. Et puis la troisième chose qu'on pourrait ajouter à ça, c'est que ce que raconte Ray Kurzweil, c'est la reprise de scénarios de science-fiction dans lesquels cette loi de Moore ne serait qu'une période à l'intérieur de la grande histoire de l'évolution. Donc c'est une immense épopée, mais il n'y a aucun élément rationnel qui justifie ce genre d'assertion.
Alors vous avez quelques doutes scientifiques, c'est une question scientifique évidemment, mais c'est aussi une question philosophique, parce que d'une certaine manière, c'est aussi de savoir si la question de l'intelligence humaine, de la pensée, peut se résumer ou pas à la somme de calculs, comme le pensait Leibniz. Donc ce n'est pas seulement finalement des questions scientifiques, c'est aussi des questions philosophiques.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, l'une des perspectives que nous ouvre Ray Kurzweil, c'est celle du téléchargement de notre conscience sur une machine. Et vous savez qu'il y a même un site qui s'appelle 2045.org, vous pouvez tous aller dessus. Et si vous y croyez, vous pouvez commencer à acheter votre avatar, parce que si votre conscience est téléchargée...
Ah, pour télécharger allez... notre...
Voilà.
Ah, très bien.
Donc, votre conscience sera téléchargée, mais il faut bien que vous ayez... Vous allez être une âme errante. Et donc, vous pouvez vous réincarner, et vous pouvez commencer
voilà,
à concevoir
rassuré,
votre avatar.
Je vais faire ça dès qu'on aura quitté l'antenne. Jean-Gabriel Ganassia. On va parler de cinéma. Le support de tous les fantasmes sur l'intelligence artificielle. On connaît tous évidemment 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, dans lequel on est saisi évidemment par les dérives de cette machine qui a pris son autonomie vis-à-vis de son équipage humain. C'est en fait une adaptation, bien sûr, on le sait, d'un roman tétralogique de science-fiction d'Arthur Clarke. Le deuxième volet, on le connaît un petit peu moins. C'est 2010, Odyssée 2. Et lui aussi a été adapté au cinéma.
Je crois que nous devons annuler le compte à rebours.
Non, Al... Ne fais pas ça.
Monsieur Chandra, ce comportement est incompatible avec la logique. On ne peut négliger un phénomène aussi important, à moins qu'il n'y ait danger. Sommes-nous en danger ici?
Le temps me manque pour t'expliquer tout en détail.
Monsieur Chandra, j'ai de la difficulté à effectuer la mise à feu sans savoir pourquoi nous le faisons. Sommes-nous en péril?
Oui, Al, nous sommes en péril.
C'est pour cela que nous partons sans attendre notre fenêtre de lancement.
Oui, Al.
Qu'adviendra-t-il du Discovery?
Il peut être détruit.
Et si je ne procède pas au lancement?
Alors le Leonov et tous ses passagers peuvent être détruits.
Maintenant, Monsieur Chandra, je comprends. Merci de m'avoir dit la vérité.
Tu en es digne.
Monsieur Chandra?
Oui.
Je ferai des rêves?
Je ne sais pas.
Voilà, extrait de 2010, Odyssée 2. Ah, le superordinateur est toujours là. On va retrouver un nouvel invité, Thierry Noisette. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, un spécialiste des questions numériques et auteur de ce blog Science Friction qu'on peut retrouver sur Rue 89. Vous aviez d'ailleurs écrit un article sur ce sujet intitulé « Les histoires d'intelligence artificielle finissent mal ». En général, entre parenthèses, dans ce deuxième volet justement du roman d'Arthur Clarke, la NASA lance une opération, une expédition pour comprendre ce qui s'est passé avec ce superordinateur HAL qui a fait avorter la mission de 2001. Et ce qu'on découvre, c'est pas que HAL est devenu autonome, c'est autre chose.
Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on découvre, alors dans 2010, il est moins connu parce qu'il est moins mythique, il n'y a pas cet aspect légendaire extraordinaire qu'a mis Kubrick dans tout son film. Mais il est beaucoup plus compréhensible. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont vu 2001 et qui m'ont dit honnêtement, c'est très beau, mais j'ai rien compris. Je crois que 2010, à peu près n'importe qui peut le voir et comprendra. Et en même temps, il comprendra un peu mieux ce qui s'est passé dans 2001. Ce qu'on comprend quand il retrouve l'ordinateur à la dérive dans l'espace, c'est qu'il est devenu fou, entre guillemets, parce qu'il a eu des instructions contradictoires. Quand il a été envoyé dans la mission qu'on a dans 2001, lui savait exactement ce qui se passait. Il était au courant de l'existence du monolithe extraterrestre qui est le vrai but de la mission. Mais les humains, les astronautes, eux, non. Et il s'est retrouvé coincé entre sa fonction qui est de communiquer, de distribuer de l'information, et cette obligation de dissimuler, de cacher une info. Donc l'explication qu'en donne Clarke et qui se retrouve dans le film dans 2010, c'est que l'ordinateur a voulu, par une sorte de névrose, dissimuler le mensonge. C'est comme ça que dans 2001, il commence par dire « il y a une antenne de communication avec la Terre qui ne va pas marcher ». et qui en fait s'avère tout à fait normal, ce qui va alerter les astronautes qui vont dire tiens, il y a un dérèglement dans l'ordinateur, et ensuite il va aller encore plus loin quand il va s'apercevoir que les astronautes pensent à le débrancher, ce qui pour lui met en péril la mission, et en fait c'est pas par souci de son autonomie qu'il va les tuer, ou essayer de les tuer, c'est parce qu'il pense qu'il est le meilleur pour mener cette mission. Et donc il ne peut pas les laisser le dérégler, et donc s'il faut choisir entre les astronautes et lui, il va se choisir lui. Alors que comme le montre l'enregistrement de 2010 que vous venez de passer, quand on lui explique le pourquoi, dans 2010, il accepte de se sacrifier pour sauver les humains.
Alors ce qui est évidemment terrifiant dans 2001, c'est que cet ordinateur est particulièrement cordial, on l'imagine comme un parfait serviteur des astronautes, mais en réalité il va se révéler un peu diabolique. Kubrick a plusieurs fois fait appel à cette figure de l'ordinateur, dans 2001 évidemment, mais aussi dans Docteur Folamour, avec cette apocalypse nucléaire qui anéantit l'humanité. C'est une figure récurrente, mais qui à chaque fois est reliée à la mort.
Tout à fait. Tout à fait. Chez Kubrick, déjà en 64, dans Docteur Folamour, on trouvait l'ordinateur, on le trouve même des deux côtés, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le déclenchement de la machine de mort soviétique quand une première bombe atomique explose, elle déclenche toutes les autres qui vont anéantir toute vie sur Terre. Et du côté américain, là, c'est le côté du Docteur Folamour, donc cet ancien nazi qui est devenu un scientifique au service des Américains, qui est en fait un peu repris sur Wernher von Braun, et d'autres savants nazis qui avaient été récupérés par les Américains et d'autres par les Russes. Et on voit qu'il explique que finalement on peut sauver quelques humains, ils vont sauver quelques centaines d'humains de l'apocalypse, tous les autres vont mourir. Et quand on lui dit mais qui va choisir quels humains, parce que c'est atroce, ça veut dire que tous les autres sont condamnés à mort, sa réponse c'est mais l'ordinateur va le faire. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque quand vous regardez le film en version originale, le film dans les sous-titres dit la calculatrice. On ne disait pas encore ordinateur dans les sous-titres de cinéma en 64.
Jean-Gabriel Ganassia, réaction sur ce que nous dit le cinéma, sur ce qu'est l'intelligence artificielle ou ce qu'elle n'est pas.
Alors c'est vraiment passionnant parce que il faut savoir qu'il y a des rapports entre le cinéma et l'intelligence artificielle qui vont dans les deux sens. D'une part, les cinéastes visitent les laboratoires et donc ils savent très bien quelles sont les recherches en cours. Et ils ont d'ailleurs demandé à des scientifiques d'être leurs conseillers. On sait que, par exemple, Marvin Minsky a été le conseiller de Kubrick pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Et on peut le voir d'ailleurs dans toute l'histoire du cinéma de science-fiction jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est un reflet fidèle de ce qui se produit dans les laboratoires. Et puis, en sens inverse, il faut savoir que les grands scientifiques, en particulier les pionniers de l'intelligence artificielle, se sont passionnés pour la science-fiction. Marvin Minsky prétendait connaître tous les grands auteurs de science-fiction de sa génération et c'était certainement le cas. Quand des étudiants, d'ailleurs, écrivaient une nouvelle de science-fiction, ils allaient la montrer à Marvin Minsky. Il a d'ailleurs écrit un livre de science-fiction avec un auteur de science-fiction. Et John McCarthy a aussi écrit une petite nouvelle de science-fiction, The Robot and the Baby, où il est justement question d'un ordinateur qui a des ordres contradictoires. Et le but de l'intelligence artificielle, c'était justement, avec des moyens logiques, de surmonter la contradiction.
De s'y retrouver.
Ce qu'on fait avec des logiques de degrés plus élevé, ce qu'on appelle les logiques non monotones.
Thierry Noisette, si on regarde plus récemment, on va trouver un autre film qui est très intéressant, qui est Air de Spike Jonze, dont je parlais tout à l'heure en début d'émission, qui est sorti en 2013, qui est l'histoire de cet homme, Théodore, qui vient de rompre avec sa femme et qui est un petit peu en dépression et qui installe un nouveau système d'exploitation et qui va choisir une voie féminine pour ce système d'exploitation avec laquelle il va échanger. Il s'agit d'une intelligence artificielle qui s'adapte, qui évolue au cours du temps et peu à peu, on a une relation étonnante, mais en tout cas passionnée, qui va s'instaurer. Et d'une certaine manière, même si cette relation est parfaitement étonnante, incongrue, la forme finalement et les capacités de cette intelligence artificielle, elle n'est pas si éloignée que ça des technologies qu'on peut retrouver aujourd'hui.
On voit maintenant que de plus en plus les grands de l'informatique sont tous en train de travailler sur ce qu'on appelle les chatbots, c'est-à-dire des logiciels capables de discuter avec nous, y compris soit par écrit, par texto, mais aussi vocalement. Ce qui est présenté dans Her, c'est une espèce de pas en avant dans lequel non seulement on a la capacité logique, bon avec en plus la voix de Scarlett Johansson qui est évidemment un énorme plus, mais cette capacité de mimer des émotions. Si bien que là où il y a un bond en avant, et j'imagine que c'est plus le scientifique qui peut nous dire si on en est prêt ou si on a encore beaucoup de temps, c'est est-ce que des programmes seront capables de simuler des émotions de telle façon qu'on ne sache pas si il les vit vraiment ou pas. C'est-à-dire dans le film, quand on entend la voix de cette intelligence artificielle qui discute avec le héros, on ne peut absolument pas la distinguer de la voix d'une vraie petite amie en train de discuter, de s'enthousiasmer, de tomber amoureuse pendant que lui tombe amoureux. Enfin,
ah oui, on tombe presque nous-mêmes amoureux. Hein.
Ah, complètement. C'est une réussite extraordinaire pour ça. C'est un film qui restera. Je pense que, comme vous avez cité 2001, je pense que Her, dans l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours, parce qu'on le voit se trimballer avec son petit téléphone dans la poche, et on voit juste le petit point de la caméra, qui est en quelque sorte l'œil de Her, l'œil de cette intelligence, comme dans 2001, vous aviez cette caméra rouge qui représentait la vision de l'ordinateur HAL. Mais là, la voix, d'ailleurs dans ces deux films, c'est des points communs. C'est que vous avez d'une part l'œil et vous avez la voix. Parce que de même, comme vous le disiez, que la voix de HAL est extrêmement terrifiante parce qu'elle est justement très courtoise, très stylée. On entend une sorte de majordome britannique très élégant. Quand on entend la voix de Samantha Johansson, on n'est pas devant une voix robotique. C'est pas le GPS qui vous guide machinalement.
Jean-Gabriel Ganassi, la simulation des émotions, et ça sera une question en guise d'ouverture finalement, on en est où, est-ce qu'on peut...
Justement, c'est pour ça que la science-fiction est très intéressante, parce qu'elle est révélateur des évolutions. Entre 2001 et l'espace, vous aviez un ordinateur mathématicien, un ordinateur qui jouait aux échecs, qui était meilleur que tous les gens, que tous les hommes, or qu'à l'époque on ne savait pas fabriquer des ordinateurs qui jouaient bien aux échecs. Il faut savoir qu'en 66, un ordinateur est battu par un enfant de 10 ans. Donc cet ordinateur mathématicien, ça va devenir, dans les années 2000, un ordinateur émotif, c'est-à-dire un ordinateur qui est capable de simuler des émotions, et c'est exactement ce sur quoi on travaille dans les laboratoires de recherche aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Thierry Noisette, Jean-Gabriel Ganassi. On retrouvera évidemment toutes les références de vos ouvrages, de vos blogs, etc. sur la page de Culture Monde. C'était un vrai bonheur de parler d'intelligence artificielle avec vous, Jean-Gabriel Ganassi. Merci beaucoup.